Bienvenue sur Flux Audio, votre podcast dédié à l'art contemporain.
Alain de Clercq, bonjour.
Bonjour.
Alain de Clercq, on vous connaît, tout le monde vous connaît, mais je vais quand même un peu vous introduire, comme on dit. Vous êtes donc artiste plasticien, sculpteur émérite et fondateur de la Space Collection à Liège. Plus de 160 pièces, vous me disiez. C'est un plaisir de vous avoir derrière mon micro, Alain. Alors, c'est à l'occasion, évidemment, du sauvetage, est-ce que je peux appeler ça comme ça, de l'ancienne patinoire de Coromeuse. Est-ce que vous voulez bien aller un peu plus dans les détails ?
Un essai de sauvetage.
Ah, tentative.
Un essai de sauvetage parce que ce bâtiment est exceptionnel, parce qu'il est historique, il était la pièce centrale, enfin le bâtiment central de l'exposition de l'eau de 1939 qui a été arrêté par le fascisme. Et ce bâtiment a un potentiel extraordinaire. Ce n'est pas moi, le plasticien autodidacte, qui le dit, mais ce sont des professeurs d'architecture, ce sont des gens qui s'occupent des archives d'urbanisme, donc ce sont des gens compétents qui disent que ce bâtiment est exceptionnel.
Ouais. Alain, là, à l'heure actuelle, quand nous enregistrons cette émission, quel est le destin de ce bâtiment, le destin officiel ?
Alors là, nous sommes le lundi 23 mars au soir. Samedi, on a fait une petite visite guidée, j'ai appelé fête du printemps, quoi. C'est-à-dire que le fait de sauver ce bâtiment et de faire peut-être quelque chose de citoyen pour le sauver et couplé à un centre d'art un peu costaud, un peu avec de l'ambition, pourrait être le chaînon manquant qui manque à Liège, évidemment, c'est-à-dire qu'on a un opéra, un orchestre, on a un grand théâtre. Tout va bien au niveau de la culture dans ces grosses institutions-là. Mais par contre, la Beauvrie étant ce qu'elle est, c'est un beau bâtiment, évidemment, qui, lui, vient de l'exposition universelle à l'époque de 1905, qui est un vestige de ça. C'est le seul vestige qui reste, me semble-t-il, je ne suis pas sûr. Mais lui accueille pour l'instant, par exemple, Douaneau. C'est très bien de faire Douaneau, ça marche pareil. Ben, j'ai été dernièrement... là-bas, le dimanche à 11h du matin, c'est plein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est plein, c'est génial, parce que ça fait venir des gens. Mais imaginons mieux. Les gens viennent en train pour un city trip à Liège, on leur donne... Et ils viennent acheter une place, pardon. Mais avec cette place, ils l'ont fois un demi, par exemple, le prix, et ils ont, on va dire, quelque chose de plus ancien à la Beauvrie. Ils ont le bateau qui vient les chercher, qui fait la navette jusqu'à Serein, par exemple, et qui les prend à la Beauvrie, qui les amène, imaginons, rêvons un peu, à la patinoire de Liège, où là, il y a un vrai centre d'art contemporain, avec, comme à Paris, il y avait Monumenta à l'époque, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté, mais il y avait des grosses expositions. J'ai vu là-bas Anish Kapoor, j'ai vu là-bas une exposition extraordinaire de Richard Serra, des 5 tôles énormes, en ligne, comme ça, décalées l'une des autres, c'était superbe.
Ouais.
Et ce bâtiment, c'est évidemment pas le Grand Palais de Paris, il est à taille liégeoise, mais il permet de faire des choses de ce type-là, de cette ambition-là. Ouais. Et nombre d'artistes cherchent, des grands artistes cherchent toujours des projets comme ça. Et le fait de laisser brut, si on regarde bien ici à la New Space, ici, bon, par rapport au bâtiment de la patinoire, j'ai 500 mètres carrés ici. À la patinoire, il y a 3600 mètres carrés, donc c'est beaucoup plus. Mais ici, j'ai des artistes de France, des Parisiens, on a fait tourner des cordes avec des artistes un peu connus déjà. Mais là-bas, on pourrait très bien avoir quelque chose de plus fort encore, tu vois. Et surtout, de connecter avec la ville de Liège, avec la province, qui permettrait, si on faisait un développement touristique et une vraie communication là-dessus, d'avoir énormément de monde et qui viendrait. Donc, soit ils viennent en bateau, ceux qui ont le temps, mais les autres, ils vont à la Beauvrie et puis ils prennent le tram.
Ouais.
Et ils arrivent, c'est pour l'instant le terminus du tram. On peut rêver que ça aille jusqu'à Herstal,
mais ça,
tu vois,
voilà,
que ça puisse se développer. Un bâtiment pareil, avec du potentiel, avec du tourisme, avec une certaine aura au niveau international par rapport à l'art contemporain, reconnu puisque le bâtiment, vu ce qui va se passer prochainement, va forcément être connu. Pourrait développer, je pense, Liège. Ça fait partie, si tu veux, de tous les développements qu'il y a à Liège, les nouveaux bâtiments et tout ça. Et le fait d'avoir ceci, et surtout si ça devient une mobilisation citoyenne d'un peu d'ampleur, ce bâtiment sera déjà marqué citoyen. Et ça, je pense que c'est bien, parce que dans notre époque, où tout part, on va dire, j'oserais dire en couille, on voit maintenant ce qui se passe au niveau de l'ONU, plus de droit international, les plus forts font ce qu'ils veulent, il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus de revendications, il y a une désespérance de la jeunesse, il y a les écoles qui se périclitent. Ici, si on fait un projet citoyen là-bas, basé sur l'art contemporain, entre autres, parce qu'on pourrait avoir d'autres choses dans le bâtiment est suffisamment grand pour additionner des programmes, eh bien, ça pourrait devenir un espèce de bâtiment espérance, je vais dire. Ouais, tu vois, ouais, c'est-à-dire ouais, que ouais, ouais, ouais. L'architecte, je pense, München, avec Georges Truffaut, qui était un échevin de l'urbanisme, je crois, de l'architecture, je ne sais pas exactement ce qu'il avait, mais dans les années 30, à Liège, il y avait une véritable science. Il y avait des gens qui étaient intelligents, qui se battaient pour le progrès, qui avaient des choses à dire et à construire. Et ici, ici, mettre cette mémoire-là, cette volonté-là, cette ambition-là par terre, c'est en fait, comme je dis de temps en temps quand je suis plus en forme et moins sérieux, c'est comme si tu prenais l'arbre sur lequel tu es assis, mais tu es assis sur la branche et non seulement tu scies l'arbre, mais tu scies tes jambes en même temps.
Ouais, 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 ouais.
Ici, mettre ça par terre est une hérésie profonde.
Ouais, ouais.
Et ça, on ne l'acceptera pas.
Ouais, vous ne l'accepterez pas, donc vous vous êtes mobilisé, c'est pas la première fois, ce ne sera visiblement pas la dernière.
Ça peut être la dernière.
Oui, mais enfin,
ça peut être la dernière, parce que pour moi,
on l'espère pas.
Moi qui me bats, tu me parlais de la flamme. Alors,
ouais, ouais.
Écoute, la flamme, je vais résumer la flamme. Nous sommes en 2000 à peu près. Je veux faire une flamme pour l'Eurofoot parce que je voulais toujours développer l'ambition liégeoise, les hauts fourneaux fermants.
Ouais, ouais.
Je me dis, je vais transformer ça, faire une image pendant l'Eurofoot. Bon, évidemment, j'allais vider le gaz de la Russie, je blague, mais avec une flamme de 100 mètres. J'avais été voir René Grech à l'époque, j'avais demandé à René Grech qui m'avait reçu le matin. Et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais bon, tu t'en souviens.
Mais, il faut la redire.
J'avais été voir René Grech un matin parce qu'il m'avait dit, allez, viens avant que tous les ingénieurs arrivent, tu viens m'expliquer tes délires et tes projets, parce qu'il croyait en moi. Il croyait en moi pour m'avoir dit ça. Je devais aller le voir avant que tout le monde arrive.
Ouais,
il allait être le premier à arriver à son bureau, René. Et alors, un jour que j'arrive, j'avais fait une maquette comme ça dans mon atelier avec un petit fer en tuyau de cuivre et un petit bec de gaz d'une petite bonbonne de camping là, et je lui montre ça et j'allume la flamme et je lui dis un peu, mais j'étais jeune hein, donc attends, c'était 2002, donc on était en 2000, tu enlèves 26 ans,
ouais, c'est
donc
ça,
j'avais
ouais.
Enfin bon, j'étais jeune trentaine d'années, je sais plus, j'ai 50 ans,
jeune trentenaire, voilà,
ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. Un peu fougueux, avec oui, j'espère. et voilà. Et il me dit, écoute, Alain, 100 mètres, c'est peut-être un peu haut, mais par contre, il a calculé pour 25 mètres. J'ai des plans de René Grey, ouais, il a calculé pour 25 mètres, avec l'échelle dessus.
Ouais, donc ça aurait pu faire 25 mètres.
Ça aurait pu se faire, ça aurait pu se faire à côté de, du standard, évidemment. Mais ça n'a pas été, ça a été transformé. Alors, il y a une opportunité à un moment avec la province de Liège de faire une flamme en dessous des fenêtres de l'échevin qui venait justement dire dans la presse qu'il ne se souvenait pas quand il avait acheté une œuvre à un jeune artiste liégeois.
Ben, c'est ça.
Donc, l'échevin Magotte, à l'époque, faisait des grosses expositions internationales, c'est-à-dire qu'il venait venir Monet, des expos sur Picasso, et il y avait énormément de touristes qui venaient. Donc, c'était très bon pour Liège. C'est un peu comme la Beauvrie.
Oui, c'est
c'est-à-dire des expositions d'entrée, on va dire ça, des expositions d'entrée qui ramènent du public. Donc, du public, c'est quoi? C'est des gens qui vont au restaurant et
c'est
qui vont aussi à l'hôtel.
C'est l'économie qui tourne, tout à fait.
C'est du développement liégeois, c'est du tourisme, et c'est des gens qui repartent contents, parce qu'à Liège, on ne sait pas. Donc, ils sont tous contents.
Vas-y.
Et donc, pour parler de la flamme et de 160 œuvres d'art, me vient l'idée de placer la flamme juste en dessous de l'échevin de la culture par hasard, et donc d'essayer d'éclairer l'échevin à l'époque qui avait dit ça, ne jamais acheter une œuvre. Et donc j'ai commencé à acheter des œuvres, et depuis maintenant, ça fait maintenant, depuis 2002, donc ça fait 23-24 ans, j'ai, grâce à la recette et des mécénats d'entreprise évidemment, j'ai acheté 160 œuvres d'art, tous les artistes ont été payés, et donc je me retrouve moi, petit artiste autodidacte avec une collection de 160 œuvres d'art au service de la ville de Liège. Et de son aura, peut-être, on verra. Et donc, par exemple, une chose à savoir, c'est que si jamais L'ASBL ici fait faillite, le projet Space Collection fait faillite, imaginons. Et bien dans mes statuts, j'ai mis que les œuvres d'art reviennent soit à la ville de Liège, soit à la province de Liège. Donc ça restera une collection publique.
Oui, voilà. C'est le patrimoine liégeois que vous êtes en, le mais nouveau bien. Patrimoine et donc, liégeois et donc, que vous êtes en train de construire.
Et oui, c'est ça. Et donc, quand on fait ça, maintenant, dans un centre d'art, la ville m'avait passé un petit lieu rue Ferronstré, et puis maintenant, j'ai un nouveau lieu, et si la logique veut que ça devienne plus grand, et voir pourquoi pas à la patinoire.
Oui, oui, oui.
Alors, pas tout seul, évidemment. Bien pas sûr, tout seul.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes le fer de lance de ce projet. Ouais. Vous êtes avec votre drapeau en proue de ce projet. Vous avez parlé de l'impact et de la potentielle réception économique, au niveau touristique. Bon, L'aura de Liège, c'est à Carrefour aussi, cet endroit, Courmeuse, oui. Et on voit le quartier se modernise, des bâtiments sortent, enfin, l'esplanade devient très agréable. Bon. Parlons peut-être des sujets un peu techniques, les sujets pratiques, l'aspect pratique et structurel. Comment aborder logistiquement et financièrement ce projet? Est-ce que vous avez des partenariats, une faisabilité potentielle? Parce que c'est quand même vous qui prenez un peu le projet à bras-le-corps.
Ben, on va défendre l'idée de ne pas abattre le bâtiment. Maintenant, nous. On a écrit évidemment à Etias pour lui demander de se rencontrer, de voir s'il y avait éventuellement moyen de mélanger les programmes. Donc peut-être que eux, je pense qu'ils veulent abattre le bâtiment, la grosse brique, on va l'appeler comme ça.
C'est ça.
De mettre ça par terre et de remonter la même taille, mais avec des autres bâtiments. Donc des nouveaux bâtiments, briques. Et voilà. Donc ils ne préservent pas le passé, apparemment. C'est-à-dire l'idée, quand on était reçu par le bourgmestre le 1er octobre, c'était il nous a montré, en fait, des plans où il n'y avait plus rien de la patinoire.
Ouais, c'est ça.
Il restait juste le petit bâtiment devant et tout le reste était parti. Mmh. Et donc, nous, on n'accepte pas ça parce que c'est un bâtiment historique.
Bien sûr.
C'est un bâtiment, une emblème de Liège, c'est l'entrée de Liège quand tu viens de la région. Donc, et puis, c'est impossible. Et puis, déjà, rien qu'au niveau écologique, regarde un peu les gens qui vont subir la démolition, regarde un peu l'entropie qu'il faut pour mettre ça par terre. C'est un peu un non-sens, alors qu'il y a des terrains juste à côté, ça pourrait très bien être construit à côté, tu vois. Ouais, ouais. Voilà.
Il y a des bas-reliefs aussi quand même qui pourraient être classés, enfin qui ont du cachet. Adolphe Wansart, hein, donc, ouais. Tout ceci, si le projet d'Etias arrive au bout, eh bien n'existe plus.
Le bas-relief, le haut relief qui est devant l'entrée, ça c'est gardé parce qu'il y a une charge d'urbanisme sur le petit bâtiment devant.
C'est ça.
Ça, je pense que c'est le consortium général néolégia qui doit le refaire. On appelle ça une charge d'urbanisme. Je peux me tromper, mais ce bâtiment-là, en tout cas, le Brouesse nous a dit qu'il le sauverait, mais tout l'arrière serait par terre.
Ouais.
Or, c'est l'arrière. C'est quand Munchen et Georges Truffaut ont fait le bâtiment, ils ont dit que c'était le palais permanent de la ville de Liège. Permanent, tu vois. Et donc, c'était, l'architecte était quelqu'un qui était engagé à la ville de Liège. Tu vois, c'était un peu l'architecte en chef de la ville de Liège. Donc, quand je dis qu'on scie ses jambes avec, c'est la réalité.
Ouais, c'est
on scie nos bases, on scie notre passé, on scie nos racines.
C'est ça, on coupe les racines.
On coupe les racines.
Ouais. Je reviens à cette histoire de financement, Alain. C'est toujours un défi pour un projet de cette ampleur. Avez-vous déjà des pistes de mécénat, de partenariat ou autre que le nerf de la guerre? Comment est-ce qu'on finance ce projet?
Alors, on est en train de penser éventuellement à crowdfunding. Alors, évidemment, il faut voir si ça fonctionne. L'idée, ce serait d'obtenir une certaine somme conséquente pour pouvoir prétendre à l'achat. Alors après, on sait bien évidemment qu'on ne saura pas trouver tous les fonds pour le refaire, bien que à l'époque, il y a 2-3 ans d'ici, il y avait un fonds FEDER de 25 millions d'euros, 25 millions d'euros que la région Wallonne avait obtenu de l'Europe pour refaire le bâtiment.
Ah oui.
On avait parlé d'un marché bio, il y a toute une fiche FEDER qui avait été acceptée, et donc la ville maintenant, la ville en fait est en difficulté financière.
Mais voilà, c'est ça.
Et donc, en fait, pour avoir ce fonds, il fallait mettre 10% de la somme. Donc, c'était un projet de 25 millions. Donc, il fallait que la ville investisse maintenant 2,5 millions pour avoir les 22 autres 1,5 million. Mais elle n'a même pas ça à mettre pour rentrer dans le jeu.
Ouais,
elle n'a plus ça. Ouais. On a des problèmes d'argent, tout est endetté, on ne veut pas taxer les fortunes, on ne veut pas taxer les boursicotages, tu vois. Il y a une espèce d'idéologie mortifère sur la Wallonie qui empêche tout projet, toute vie et toute aide aux jeunes qui veulent apprendre.
Oui, au s'auto-enterre.
Oui, on est en train de s'auto-enterrer, je pense vraiment. On dit souvent que... Enfin, j'ai toujours entendu que quand il y a des crises, il faut investir dans le public. J'ai toujours entendu ça. Faire des travaux, refaire les routes, et après ça se redéveloppe et c'est reparti. Une fois que c'est reparti, il y a de nouveau des guets pour les finances, et donc ça repart, quoi, tu vois. Et moi, je pense vraiment ça. Et
donc on manque d'audace, voilà, de prendre des risques.
Je pense que Willy fait ce qu'il peut.
Oui.
Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il est un peu calé par la région wallonne. Je pense que. Mais bon. Voilà, on aurait voulu qu'à un moment, il fasse quelque chose un peu plus...
Est-ce qu'il peut faire quelque chose ?
C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Willy, si tu... je lui ai dit ça le 1er octobre. Je lui ai dit, Willy, tu veux être un grand bourgmestre ou tu ne veux pas être un grand bourgmestre ? Et donc, je pense que s'il ne sauve pas ce bâtiment-là, s'il ne le termine pas et qu'il accepte qu'il soit par terre, quelque part... Il finira avec une sale tache sur sa carrière, tu vois.
Ouais, ça peut être grave, hein, c'est ça.
Ouais, c'est grave, ça va être grave en plus parce que le combat va être fort.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, le combat va être sérieux là maintenant.
Là vous êtes déterminé.
Ah, ouais. je sais que c'est maintenant que je dois le faire.
Ouais.
Je sais que c'est maintenant et je sais aussi que je ne laisserai pas passer la démolition.
Ouais, mais la dentisterie, c'est un échec pour vous et à ce moment-là, est-ce que
voilà, alors le baroud d'honneur de la dentisterie quand j'ai fait une grève de la faim pendant 9 jours,
c'est ça que je voulais.
Le bâtiment était déjà en phase de démolition. Ici, il n'est pas.
Et c'est ça.
Il est parti à la région wallonne. La ministre, on est allé voir la ministre. Elle a dit qu'elle aiderait à ce qu'on rencontre les gens d'Etias. Maintenant, elle ne peut pas le faire officiellement. C'est compliqué. Il y a des contraintes. Il y a des... Je veux dire, il y a du lobbying peut-être de la part de la ville. Parce que, bon, alors, pour reprendre pour Willy dans un autre sens, bon, moi, je dis qu'il faudrait qu'il le fasse, mais il répond, lui, alors son argumentaire, c'est que, si tu veux, le petit boucher de service veut faire racheter Etias par Belfius.
Ah oui, c'est ça.
Ah ouais, y a ça dans la partie aussi. Hein. Y a plein de choses que je vais te raconter maintenant. Y a plein de choses. Y a le fait que... donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est ne plus que le pouvoir soit à Liège.
C'est ça.
La SPAP, Etias, c'est quelque chose de politique liégeois. Tu vois, c'est une politique liégeoise. C'est l'ambition liégeoise. C'est une force liégeoise, Etias, tu vois. Et donc, quand Willy dit ça, je comprends totalement. J'adore Liège, tu vois. Et j'adore aussi peut-être les autres villes. Ouais, c'est mais ça, on est liégeois.
Voilà, ce que j'allais dire. On peut pas vous l'enlever,
donc,
ça.
Ouais, okay. Donc, y a ça en jeu, tu vois. Alors aussi, après, on va dire que les fonds FEDER qui normalement étaient là pour faire quelque chose sur la patinoire, pardon, trop, mais un lapsus révélateur.
C'est
pardon,
ça. Hein,
c'est toi qui m'en parle.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais donc, il prend les 25 millions, il ne vaut plus. Il ne vaut plus sur la patinoire pour refaire. Il y avait 25 millions pour refaire l'enveloppe, c'est-à-dire quoi ? Les quatre murs,
ouais,
plus le toit.
Ouais.
Écologiquement, c'est un fonds écologique, c'est-à-dire qu'il fallait montrer l'exemple pour que. On isole, on fasse peut-être des... Sur le toit, on pourrait avoir des panneaux solaires,
c'est
on pourrait avoir quelque chose d'exemplaire au niveau de ce qu'on doit faire maintenant par rapport à l'écologie. Montrer l'exemple, tu vois. Et malheureusement, ces fonds-là, vu qu'il n'y a pas de projet et vu qu'il y a les 2,5 millions qui sont immettables parce qu'elle avait les sous-tutelles de la région Wallonne, elle ne peut pas. Donc, qui est en train de bloquer ça ? Ben, c'est les partis qui sont pour l'instant à la région wallonne, qui bloquent le fait que la ville de Liège peut essayer de développer quelque chose là-bas. Et donc, voilà, c'est triste. C'est triste.
Alain, vous nous parliez des fonds FEDER. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus ?
Écoute, je pense qu'il y a eu une fiche FEDER sur la patinoire. D'ailleurs, il faut regarder ça. Il y a eu une énorme bâche. Je peux te filer la photo si tu veux. Où ici, la région wallonne et l'Europe investissent, qui étaient mis sur le bâtiment, tu vois. Et je pense qu'il y a une fiche FEDER de 25 millions pour refaire les quatre façades donc, du bâtiment et le toit.
Ouais,
et donc, ça, c'était il y a 2-3 ans. Quand je me suis présenté aux élections, quand ils sont venus me chercher pour que je fasse des voix pour Luc Gillard, tu vois, Luc est venu me demander, Willy a validé, évidemment, et ils avaient mis, si tu veux, faire de la patinoire un centre d'art actuel, et l'autre avait mis faire de la patinoire un centre d'art contemporain, tu vois. Et j'ai pu accorder le bazar, j'ai mis actuel, Je trouvais que c'était plus sympa. Et donc, page 59 pour le programme de la ville et 63 ou un truc comme ça pour le programme de la province. Et donc, moi, j'ai été aux élections parce que, après tout ce qui est arrivé, donc, après avoir dû arrêter Liège 2015, on ne pouvait pas déposer la candidature parce qu'une autre ville était encore sur les starting blocks et voulait courir la course toute seule. Hein, donc, une ville a gagné avec un seul candidat sur une piste de 8. C'est comme ça, c'est la région Wallonne. C'est un fait historique, ça. Hein.
Ouais.
À ça, nous avons répondu par la plus grande consultation populaire de Belgique. 19 000 personnes qui ont été votées. On n'en parle jamais parce que c'est une omerta. C'est une omerta, on ne peut pas parler de ça. Personne n'en parle jamais.
Ouais, ouais, ouais.
La plus grande consultation populaire de Belgique, personne n'en parle.
Ouais, ouais, ouais.
On ne peut pas parler de ça parce qu'il y a eu un meurtre ou un crime démocratique. Voilà, il y a quelque chose de fort. Voilà. À ça, on nous a proposé de faire... pour qu'on arrête les signatures pour Liège 2015, on voulait transformer la force de tous ces gens qui avaient signé pour que Liège renaisse. Ouais, c'était ça. C'était une manière de relancer Liège, tu vois, qui a perdu de sa superbe. Et qui a perdu de sa superbe? Et donc, à ça, on nous a répondu qu'on pouvait peut-être faire un centre pour les jeunes, donc artistique, basé sur le régio, à la dentisterie, qui a été mise par terre. Et maintenant, on vient me chercher pour que je fasse des voix. On me fait la promesse de faire un centre d'art. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est pas moi qui ai fait le programme du PS. Hein. C'était marqué. C'était Luc Gillard et Willy de Meyer qui ont écrit tous les deux, validé par les instances, qu'on faisait un centre d'art contemporain à la patinoire. On est un an et demi après. Le bâtiment va être détruit. Les fonds FEDER, ils sont partis où? Ils sont là, ils étaient là.
À
ce moment-là, ils sont partis à la citadelle, tu vois, parce que pour refaire la façade et peut-être les entrées, je ne sais pas exactement à quoi ça va servir. Et alors, c'est là que je peux comprendre les laïcs, tu vois.
Ouais.
Parce que, si tu veux, le Mont-Légia, qui est plutôt de l'autre côté, on va dire, hein, de l'autre côté du balancier, ben ça se développe à crever. Tu as une sortie d'autoroute, bientôt tu vas rentrer dans le bureau du médecin en bagnole, quoi, tu vois.
C'est ça.
C'est parfait, pour eux, ils sont contents. Ça marche qu'un drive-in médical. Un drive-in médical, et la citadelle, ben, y a des problèmes de mobilité, tu vois. Et donc, je comprends que cet autre balancier, je veux dire, de la vie belge, aimerait bien, effectivement, et donc ils doivent être d'accord, tu vois. Donc, effectivement, je me bats contre du lourd, tu vois. Je me bats, là, si on regarde cet aspect-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, par principe, pour que on va dire cette philosophie-là gagne aussi, tu vois, s'équilibre à ce moment-là. Ben je ne pars pas gagnant,
oui. mais confiant quand même.
Mais je pars en tout cas au combat, tel de Quichotte peut-être encore une fois, mais cette fois-ci je gagne.
Et comment on fait sauter cette soupape alors? C'est quoi? C'est la mobilisation citoyenne? C'est le combat que vous menez, c'est ça?
On aimerait bien, on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire un crowdfunding qui va commencer bientôt. Et on va essayer de soulever Liège pour dire qu'on ne veut pas qu'on le démolisse et voir si on ne peut pas en faire un centre d'art contemporain avec... une direction citoyenne.
Ouais, c'est ça.
Regarde la flamme, quelque part.
C'est notre grand.
Il y a l'idée de. Quand j'ai fait la flamme, et finalement, je me suis rendu compte de ça ces jours-ci. C'est que la flamme, je l'ai appelée. Donc, j'avais d'abord appelé flamme de la culture.
Ouais.
Et puis, je me suis dit, non, c'est le CEPES de la culture. Donc, je l'ai appelé sculpture publique d'aide culturelle. Public d'aide culturelle.
Ouais.
C'est un jeu de mots avec le CEPES. À coup de petite piècette, on a quand même réussi, parce qu'on a des idées, à faire quelque chose. Et ça s'est transformé en une collection, certes modeste, mais de 160 œuvres d'art avec des artistes d'ici, de Liège, de la région Wallonne, de la communauté française, plus des artistes internationaux.
Modeste, mais de renom maintenant, hein, quand même. Il y a de belles pièces.
C'est vous qui le dites.
Voilà.
Et donc, là maintenant, ici, si on avait un centre d'art contemporain géré par les citoyens et additionner d'autres choses, parce que le bâtiment, alors la grande hall qui est dans la patinoire, si effectivement on garde le petit palais devant, enfin le petit bâtiment devant qui est l'accueil, ouais, ouais. La première partie de grand hall de la grande brique pourrait servir à des expositions. Mais la partie arrière, et c'est ça qu'on avait réfléchi, nous, pour Etias, c'est que ce soit plein de bâtiments, d'étages,
oui, c'est ça, ouais.
Pour avoir les bureaux pour NRB. Ouais, c'était ça l'idée qu'on voulait essayer de leur proposer pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver une solution qui agrée tout le monde, la volonté liégeoise et leur programme. Pour rester liégeois, justement.
Ouais, ouais. Il y a des simulations hein, qui tournent, hein, où on voit véritablement le bâtiment terminé. Effectivement, ça peut être extraordinaire. C'est comme vous le dites, ça pourrait développer l'aura de la ville. Ouais. Ça va augmenter son rayonnement et peut-être sortir effectivement de cette espèce de boue mentale, de repli sur soi et d'effondrement, hein, quelque part, ouais, quand même.
Il y a un côté comme ça.
Ouais. Alain Declercq, donc, vous l'avez dit, nous sommes le lundi 23 mars. Quelle est la prochaine échéance?
Demain soir, il y a un conseil d'administration.
Pour finir, ouais.
Il y a un gros conseil d'administration chez Etias où ils vont décider où ils vont, parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés parce que ils veulent finir le bâtiment pour 2030. Ouais. Et donc, on est déjà en 2026, mi-2026, donc il faut déposer un projet, il faut le permis d'urbanisme.
Donc mardi 24, ça, c'est...
Demain. Et donc... il y a plusieurs possibilités. Il y en avait trois le 5 mars. Il y avait soit ils vont au Guimain, un projet de chez Moury, je pense, qu'ils pouvaient investir aussi. Soit la patinoire avec la démolition de la patinoire que nous n'acceptons pas. Soit alors peut-être sur le terrain juste à côté. Parce qu'ils veulent être près de leur nouveau centre. Et c'est très bien. Forcément, ils veulent être tout près les uns des autres, que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est intelligent, tu vois. Mais pourquoi mettre un bâtiment mémoriel par terre? Donc peut-être qu'ils ont parlé d'éventuellement mettre le nouveau bâtiment d'NRB à un autre endroit. Tu vois, de toute l'esplanade qui était énorme là-bas, que plutôt que de faire des appartements partout qui ne se vendent pas spécialement si bien, si j'ai bien compris, parce que c'est cher, tu pourrais avoir une partie qui serait des bureaux. En plus, un argumentaire pour eux aussi, s'ils font le NRB là-bas, ben, peut-être qu'il y a certainement des employés d'NRB qui pourraient très bien décider d'investir. Donc voilà quelque chose de vertueux et de constructif, tu vois.
Parce que
les gens qui seront là, s'ils ont leur bâtiment juste à côté avec la marina, ça fonctionne. Tu vois, t'as le tram juste à côté, c'est pas mal quoi.
Il y a de l'idée. Alain Declercq, merci d'avoir été derrière mon micro et merci pour toutes ces explications très enjouées et très vives.
Merci, salut.